Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
Bonjour Benjamin Coria.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes professeur de Sciences Éco à Paris 13, membre du comité d'animation des économistes atterrés. Vous avez publié Le bien commun, le climat et le marché. Réponse à Jean Tirole aux éditions Les liens qui libèrent. Sylvain Réby, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Président d'Orientis. Christian Poyot, bonjour.
Bonjour Nicolas Dose.
PDG de Micropole. Vous me disiez juste avant de prendre l'antenne, c'est quand même extraordinaire, on fait des économies et on nomme un haut commissaire.
Mais c'est
je dois avouer que...
C'est bien le point principal. Ok, est-ce que le déficit de l'État est à un niveau record et qu'il est dans la réalité pas soutenable? Je pense que tout le monde est à peu près d'accord pour ça. Après, c'est le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait? Bon, alors je pense qu'on va en débattre un petit peu après, mais c'est totalement schizophrénique, c'est qu'on voit des grandes déclarations, on voit, comme l'avez cité également le président de la République, qui tense les hauts fonctionnaires en disant qu'il faut être plus efficace, etc. Et le lendemain, pof, on crée un nouveau commissaire. Alors, j'ai rien contre ce monsieur, je ne le connais pas, etc. Mais on se dit bien que c'est au commissariat, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des rapports, il va auditionner, il va demander à changer des lois, à faire de nouvelles règles, etc. Et ça, sinon, ça ne sert à rien, on est bien d'accord. Bon. Donc, un nouveau commissaire égale bah, plus de règles, plus de lois, plus de normes, plus de choses à respecter, etc. Donc, c'est à l'antithèse de ce qu'on a dit 5 minutes avant. C'est quand même absolument délirant. On a combien de hauts commissaires en France?
Bon, j'ai pas la liste. Enfin, on a un nouvel observatoire de la haie.
Ah, bah voilà, un observatoire aussi.
De la haie, parce que vous savez, la haie, ça a été un gros sujet aussi.
Oui, voilà. Alors, je dis pas, je ne pense pas que ce soit ce haut commissariat qui va grever encore. Enfin, il va le grever, mais pas
non, les importants. Les montants ne sont pas
connus. Mais c'est le principe. C'est le principe. Moi, je réagis en chef d'entreprise, OK? On se dit, tiens, on a trop de charges. Ok. Alors, c'est jamais très simple dans une entreprise non plus. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Sur quel sujet on agit? Comment on communique? Etc. Mais on n'est pas 5 minutes après en train de recréer quelque chose qui rajoute des charges. L'état d'esprit est quand même absolument hallucinant. Voilà.
L'observatoire de la haie, c'est vrai que ça... Alors oui, c'est sûr que, comme vous le dites, ce n'est pas des montants astronomiques. Quand Gabriel Attal avait annoncé qu'il voulait fermer les comités Théodule qui ne se réunissent jamais...
C'est l'état d'esprit.
Oui, c'est l'état d'esprit. J'avais été surpris d'ailleurs d'apprendre que l'ensemble de ces comités dans tous les sens coûte à peu près 30 millions d'euros par an. Donc on n'est pas sur un truc absolument dingo, mais...
Bon, c'est pas non plus, attendez. Si ma mémoire est bonne, les derniers hauts commissaires qu'on a eus, c'était des gens qui étaient des ministres, en fait. C'est une sorte de ministre, le haut commissaire. Oui. On avait le haut commissaire à la santé, comment s'appelle-t-il?
Oui.
Vous vous souvenez? Bon, son nom me reviendra. C'est une sorte de ministre. Si on avait dit on crée un ministre à la formation professionnelle, je pense que mon ami Christian n'aurait rien dit. Alors, c'est une question de terme. Maintenant, sur le fond, je le rejoins. C'est vrai que quand on demande de simplifier les choses et de réduire le poids de l'administration, créer un ministère de plus ou une organisation de plus, c'est pas forcément très, très malin. Cela dit, si je peux revenir sur la réunion d'Emmanuel Macron hier avec les 700 hauts fonctionnaires, et je l'ai dit ici, puisque j'ai travaillé sur la simplification à l'époque, en 2017-2018, à Bercy, lors de la loi
PACTE. La nouvelle, juin.
Oui, paraît-il. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que ce qui crée les normes et ce qui crée... ce qui nuit à la simplification, c'est l'administration centrale. C'est les 180 et quelques administrations centrales qui créent et qui développent ces normes ou qui ne les suppriment pas. Et donc, à qui faut-il parler pour simplifier? C'est à l'administration centrale.
C'est bien ce qu'il a fait.
Bien sûr. Voilà. Donc je dis, il a eu raison de le faire parce que au niveau des ministres, c'est impossible. Un ministre n'a pas la main sur l'administration centrale. Celui qui a la main, c'est à Matignon, c'est le secrétaire ou je crois la secrétaire générale du gouvernement qui a la main sur l'administration centrale, qui la gère et qui lui donne des ordres. Ces ordres, ils ne peuvent venir que du président de la République et de l'Élysée. Et on l'a toujours dit, pour simplifier, il faut que ce soit l'Élysée qui donne le « là ».
Ah ben...
Si Emmanuel Macron met du poids là en leur disant « il faut simplifier, sinon c'est Bibi qui paye », a-t-il dit.
Il nous a ressorti Bibi.
Eh bien, voilà, il a ressorti Bibi. Eh bien, s'il dit ça, c'est important parce que c'est lui et lui seul qui a la main. Personne, Nicolas Sarkozy à l'époque à Bercy, n'a jamais réussi à avoir la main sur l'administration centrale, l'administration de Bercy. Et donc, il n'y a que le président de la République qui peut faire ça et j'estime que c'est un bon signe qu'il l'ait fait hier. Ouais. Nous verrons si ça pèsera, mais Voilà un bon début.
Je rappelle, et je vous donne la parole, Benjamin Cordier, ce que disait Guillaume Poitrinal, qui vous a précédé justement sur ces chantiers de simplification, lui dit la seule chance d'y arriver, c'est vous bloquer une partie du premier étage de l'Élysée et vous y mettez des acteurs de la simplification qui dépendent directement de l'autorité du président de la République. Et ça vient de gens qui connaissent ce sujet de la simplification, parce que quand même, Poitrinal avait travaillé en tandem avec Thierry Mandon sous François Hollande sur ce dossier-là. Par rapport à ce qu'on vient de se dire, avant de revenir sur les économies de dépenses publiques, Benjamin Cordier.
Non, mais si vous voulez qu'il y ait un problème de simplification, je crois qu'on est tous d'accord.
Là, oui.
Qu'il y ait un rôle des hauts fonctionnaires, etc., qui bloquent ou qui, en tout cas, font pas ce qu'il faut, j'en doute pas. Hein, j'en doute pas, et sous tous les gouvernements, hein, je veux dire.
Ah oui.
Voilà, il y a une tradition de cette
casse. Les ministres passent, les fonctionnaires restent.
Mais ce que je voudrais rajouter, c'est que moi, je pense que la vraie question, je dis pas que cette question-là n'existe pas, hein, vous avez bien compris. Hein, je dis que la vraie question, c'est la vision et la cacophonie de la vision. Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut ? Alors, je donne un seul exemple, mais après le pacte vert, après la planification écologique, après ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas, ping ! Après, notamment, le mouvement paysan, qui a beaucoup de raisons d'exister. On a tout foutu en l'air. Alors maintenant, les normes, on les fait où ? On simplifie quoi ? Quand, comment? Donc la vraie question, c'est pour ça que moi j'ai trouvé, je le dis comme je le pense, hein, j'ai trouvé la prestation de Macron pitoyable. C'est pitoyable.
Celle d'hier avec les 700 responsables.
Mais oui, parce qu'il faut qu'il donne une orientation. Il n'est pas là pour dire agitez-vous, faites ceci, faites cela. Il est là pour dire, on l'a fait la transition écologique, et on l'a fait comment? Avec quoi? Avec quelles normes? On aide le monde agricole, notamment, hein, je fais référence au dernier rapport de la Cour des comptes, qui liste 12 grands domaines. C'est là qu'elle est la question. Une fois qu'on a une vision claire et qu'on n'en change pas tous les 6 mois, alors oui, on peut mettre au pas les hauts fonctionnaires. Mais dans la mesure où c'est absolument, je veux pas dire n'importe quoi, mais presque, en tout cas, des virages.
Il y en a pas mal, des virages.
En permanence. Oui, vous voulez qu'il fasse quoi?
J'ai pas trouvé un grand pays, Benjamin Cordier, qui n'a pas fait des virages sur les contraintes et les agendas verts face aux résistances des populations ou de différents secteurs.
Oui, il y a une remise
d'accord,
mais je veux dire. On ne peut demander aux fonctionnaires qui sont en position de faire exécuter les choses, c'est-à-dire les hauts fonctionnaires, etc., qu'à partir du moment où ils ont des orientations claires. Quand c'est le flou, voire le changement de direction actuel, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ?
Vous avez vu que Bruno Le Maire a pris 2 engagements clairs, la suppression des 1800 CERFA français en 2030 et divisé par 2 le code du commerce d'ici 2027.
Non mais même ça, mais parlons-en.
Mais
parlons-en, divisé par 2 le code du commerce, moi je pense que c'est une folie. C'est une folie.
Folie, il ne faut pas le faire ou on n'y arrivera pas
Non, il ne faut pas le faire. Ah bon, on n'y arrivera pas et il ne faut pas le faire. Il faut certainement simplifier. Mais je veux dire, l'expérience... Non mais écoutez, moi, j'ai un avantage, je suis universitaire, je voyage beaucoup. Bien. En Chine... en Chine, par exemple, il n'y a pas une personne qui passe 10 minutes sur chaque produit alimentaire pour savoir si elle va l'acheter ou pas. Parce que, pour d'autres raisons, il n'y a pas de réglementation, ou en tout cas, tout le monde s'en fout. Personne ne le respecte. Donc, je dis, c'est une folie d'annoncer qu'on va supprimer la moitié des réglementations. Les effets peuvent être catastrophiques. Rappelez-vous de la déréglementation financière, la déréglementation du code du commerce peut avoir des effets encore plus catastrophiques.
Je suis incapable, je ne suis pas assez expert pour vous répondre. Mais...
C'est un processus qui ne peut être mené que très lentement et avec beaucoup de maîtrise.
Mais j'ose imaginer qu'on est peut-être capable de faire des choses comme ça.
Non, moi je crois qu'on n'est pas capable.
Dans ces cas-là, on n'y arrivera jamais.
Non, on n'est pas capable, sous la forme de l'effet d'annonce, dans un an, on va supprimer la moitié des articles. Ça, on est absolument incapable. En en mesurant les effets. En mesurant les effets.
Il faut faire le travail. Je ne suis pas d'accord sur le sujet du changement de cap. Est-ce que le sujet de la transition écologique est un sujet qui s'impose à nous? Tout le monde est d'accord là-dessus. Le point, c'est comment on le met en œuvre. Alors, oui. Il y a d'un côté les raisonnements théoriques qu'il faut avoir, qui sont indispensables pour avoir une vision globale. Mais après, ce qui pêche le plus en France, c'est la transposition pratique.
Oui.
À quelle vitesse? Comment? Alors, il y a l'adaptation... psychologique de tout le monde, du corps social, des entreprises, etc. Et puis, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce que font nos concurrents? Alors, la théorie, donc c'est, je redis, il ne s'agit pas de critiquer la théorie, c'est nécessaire, c'est indispensable.
Mais
après,
je parle pas de la théorie.
Pratique,
hein.
La pratique, ça l'est aussi. Et aujourd'hui, je vais être fort, mais bon, on crève sous les normes. On en a plus que tous les autres pays, d'accord? Donc, il ne s'agit pas de dire qu'on va diviser le code du commerce par 2, par 3, par 0, j'en sais rien. Revisitons-le. Le code du travail, c'est pareil. Revisitons-le. Oui. Mais revisitons-le en ayant un équilibre adéquat, on va dire, entre une vision de l'objectif, de la théorie, mais surtout de la pratique. Oui. En France, ce sur quoi on pêche souvent, c'est que vous pouvez regarder les différents organismes de régulation, tout ce que vous voulez, quelle est la part des chefs d'entreprise dedans? Elle est extrêmement faible, pour ne pas dire dans la majorité des cas, totalement inexistante. Je cite l'exemple de la Suisse. Sur la Suisse, quand ils mettent en place des réglementations, il y a un collège dans lequel il y a moitié du corps économique, si j'ose dire, et moitié du corps, électoral, enfin, en tout cas, qui est plus régalien, si j'ose dire. Voilà. On n'a pas ça en France. Donc...
C'est prévu, hein, dans
Oui, c'est prévu, mais c'est
test PME, faire tester par les PME une mesure avant de l'appliquer.
Il faut faire bouger les lignes là-dessus. Il y a un travail extrêmement important. Le poids global des réglementations, normes, procédures est étouffant en France.
Évidemment.
Simon Rémy, vous réagirez.
Diviser par deux le nombre d'articles du code du commerce, ça ne veut pas dire qu'on ne surveille plus les produits qui sont vendus dans les supermarchés.
Oui, on va faire comment
vous l'avez pensé tout à l'heure. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'obligations qui pèsent sur les entreprises, sur les artisans, qui sont trop lourdes, des obligations administratives, par exemple, qu'il faut revoir, qui ne sont plus de ce temps. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut enlever le contrôle sur ce qui est vendu ou la façon dont c'est vendu, c'est qu'il faut simplement simplifier la tâche des chefs d'entreprise et que ça va nous faire gagner beaucoup de temps et ça va gagner beaucoup d'argent collectivement. Donc oui, évidemment, il faut diviser par deux le code du commerce comme il faut simplifier le code du travail, etc. Ça ne veut pas dire que c'est au détriment du consommateur.
Oui. Alors, moi, là où le... on ne peut pas partir du principe qu'il faut simplifier mais qu'on n'y arrivera pas, Benjamin Gorin.
Non, j'ai pas dit ça.
Je crains que vous ayez un peu raison sur le sait-on le faire? Est-on capable de le faire? C'est comme la réforme de l'État. Est-ce qu'on est capable en France de la faire? L'efficacité de la dépense publique, est-ce qu'on est capable de poser le sujet et de le traiter?
J'ai commencé par dire oui, il faut simplifier, etc. J'ai aucun souci là-dessus.
D'ailleurs, on n'y arrivera pas.
Et je veux dire, j'ai pas besoin d'être chef d'entreprise, comme consommateur ou comme fonctionnaire. Je vois bien. Je veux dire, pour dépenser 30 centimes à l'université, il faut remplir 14 papiers. C'est pas possible. Y compris par rapport à nos amis, collègues et rivaux internationaux. Il y a toutes sortes d'initiatives qu'on peut pas prendre. Bon, et faire progresser la recherche française. Donc, je souscris. Mais ce contre quoi je m'élève, c'est les effets d'annonce de type, on va diviser par deux le code du commerce dans les 6 mois qui viennent, tenser les fonctionnaires, etc. Moi, je suis d'accord avec vous. Comment non seulement les chefs d'entreprise, mais les groupes sociaux concernés par les différentes réglementations doivent être fortement représentés. Je suis parfaitement d'accord avec tout ça.
C'est le
contraire de dire on va diviser par deux le code du commerce, on va faire ceci, on va faire cela.
J'en prends ce que disait Nicolas Lannes. On va pas y arriver. Mais alors, si on commence comme ça, faut mieux aller se coucher, quoi.
Etc. On commence pas par afficher des trucs dont on sait qu'on va pas les tenir. On dit la même chose, mais de manière crédible. Voilà, c'est tout.
Y a-t-il en ce moment un état d'esprit qui évolue sur ce sujet-là?
Cette fameuse maxime qui dit « ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait
oui. ».
Il faut quand même la garder en tête.
À force de
dire que tout est impossible, on ne fait rien.
Oui,
il faut être un peu volontariste.
Ceux qui pensent qu'on n'y arrivera pas sont priés de laisser tranquille ceux qui agissent.
C'est quand même un sacré chantier. Qui s'en occupe, comment ça va s'incarner.
C'est ça la question. On est dans les effets d'annonce.
Je pense que Poitrinal a raison. Il faut une sorte de task force à l'Élysée qui est chargée de ça avec des gens compétents parce que c'est juste...
C'est ce qui fait cette année hier. faire, on n'en sait rien.
Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, Benjamin Cordia. Comment vous avez vécu la séquence moins 10 milliards et moins 20 milliards là, qui nous a occupés pendant 15 jours? Vous vous dites, c'est l'urgence absolue, un petit peu dans la ligne de ce que dit Pierre Moscovici à la Cour des comptes, menace sur la dette, enfin, voilà.
Non, mais moi je l'ai vécu tout simplement comme le retour de la réalité. C'est-à-dire que nos performances macroéconomiques sont mauvaises. Effectivement, moi, vous savez que je ne suis pas de ceux qui disent la question de la dette, c'est sans intérêt, ça n'existe pas, etc. Ça existe, et ça doit être géré. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut tout soumettre à ça, mais ça existe. On ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Il n'y a qu'à voir le pourcentage du budget qui y est consacré, et qui risque d'y être consacré si les taux d'intérêt montent. Bon, donc, moi, j'ai vécu ça comme le retour de la réalité. Ça veut dire que...
Il faut trouver de l'argent coûte que coûte, et on y va.
Voilà, bon. Mais j'ai aussi vécu ça, bien sûr, par sous la forme le numéro qui a eu de gros effets, hein, de blocage général de la fiscalité depuis 7 ans, ça revient, hein.
C'est ça. Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire que...
Ben, ça veut dire que on ne peut pas avoir de tabou sur rien.
Ah ben c'est ce que, c'est bon, ce que voilà. Dit Moscovici sur la fiscalité.
Non, mais on a un tabou sur on touche pas à la fiscalité. Ouais. Et on la baisse, on la baisse. Et ben voilà.
Le retour de la réalité,
c'est que les équilibres macroéconomiques s'écroulent et qu'il faut prendre un ensemble de mesures.
On est allé trop loin sur les baisses d'impôts?
Ah oui. Enfin, pour ce qui concerne en particulier les impôts sur le capital, les impôts sur le haut revenu. On va parler tout à l'heure de la bourse.
J'ai pas prévu de la bourse.
Ça explose dans tous les coins.
Ah oui,
ça explose dans tous les coins. Et quel est l'effet de ruissellement? Rien du tout. La même année où la bourse bat tous ses records, on est à 0,8% de croissance. Bon, je veux dire.
Il ne faut pas faire de lien entre la santé du CAC 40 et le PIB de la France.
Mais comment ça?
Mais ça n'a aucun rapport, Benjamin Coria, le PIB de la France et le CAC 40.
Mais
8 euros sur 10 sont gagnés à travers le monde.
Non, mais à condition que la politique ne soit pas orientée vers le tout business. À ce moment-là, on peut dire que ça n'a aucun rapport. Mais ça a un rapport quand c'est au cœur de la politique économique.
On a fait une politique. On a une minute, mais on y revient après.
Il faut quand même dire.
Benjamin Coria.
Il faut quand même dire. Il faut quand même dire, Benjamin, que lorsque l'équipe Macron a commencé à baisser les impôts, ça a commencé en 2015 d'ailleurs, sous le Macron ministre de l'économie et des finances, ça a continué en 2017, quand on a instauré la flat tax, quand on a mis une fiscalité qui ne bougeait plus tous les ans, qui n'augmentait pas, qui ne rebaissait pas au fil de l'eau, eh bien, on a obtenu des résultats pour la France qui sont meilleurs que la moyenne de l'Union européenne, qui sont meilleurs pour la plupart du temps que l'Allemagne. Mais si, c'est depuis ce moment-là que la France s'est développée, qu'elle a une croissance qui a été plus forte que celle de l'Allemagne.
La France qui n'arrivait jamais avant.
Laissez-le finir.
Qui n'arrivait jamais avant. L'Allemagne était toujours devant nous et maintenant, on est raisonnablement devant eux sur à peu près tous les domaines. Donc, c'est aussi l'effet de cette politique fiscale.